Vous êtes sur RTL.
RTL.
C'est un dessinateur humoristique. J'ai un magnifique volume qu'on m'a offert pour Noël, justement, de tous les dessins qu'il a fait pour Le Monde. Et j'aime énormément Plantu.
Il y a beaucoup d'intelligence et de concision, audace et justesse.
Sobriété, humour, réflexion.
Le journal inattendu.
Il faut que ce soit efficace. Voilà, un bon dessin, c'est un dessin qui est efficace. Le boulot du dessinateur de presse, c'est ça. On dessine des murs et à la fin, l'art fait qu'on dépasse les murs et on passe au-dessus. Et à la fin, hop, on se parle. Vous voyez, au bout de mon doigt, il y a mon idée de dessin que j'ai et je la dessine. Et puis la page me parle.
Plantu, en toute liberté, dans le journal inattendu sur RTL.
Avec Ophélie Meunier.
Bonjour Plantu.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu, je suis ravie de vous recevoir. Merci. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Le 31 mars, la colombe prendra son envol. Après 49 ans de collaboration et 50 000 dessins, vous, le dessinateur emblématique du monde, avez choisi de quitter votre journal chéri, votre famille, comme vous l'appelez. Pourquoi cette décision? Qui va vous remplacer? Plantu, vous allez tout nous expliquer. Entre agacement, moquerie et émotion, vos dessins, ce sont vos sentiments sur l'actualité qu'on a découvert quotidiennement. Aujourd'hui, on va tenter de mieux connaître l'homme derrière ses émotions. On découvrira aussi votre regard sur l'actualité du jour, sur le métier de dessinateur de presse et sa liberté d'expression, et on accueillera votre invitée, l'actrice Catherine Fraud. Mais d'abord, pour commencer, je demande toujours à mon invité de se tirer le portrait, non pas en dessin, mais avec des mots, s'il vous plaît. Vous avez une minute pour vous présenter, alors Plantu, qui êtes-vous ?
Ah, il faudrait mettre de la musique pendant que je parle, parce que je suis tellement habité par la musique. Je suis un dessinateur de presse depuis 1972 au journal Le Monde, et je trouve que dans une autre vie, je ferais de la musique. Parce que quand je trouve mes idées de dessin, j'adore mon métier, hein, je revendique le fait de faire tant de dessins depuis 1972 au journal Le Monde, je suis habité par la musique.
On va entendre beaucoup d'extraits de musique que vous avez choisi aujourd'hui.
Me donner
ça va arriver.
L'occasion de porter mes images. Et puis, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, j'ai compris, grâce à Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, qu'il fallait réagir. Et c'est lui qui m'a fait réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, à l'ONU, à New York. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'un réseau social qui peut manipuler les opinions et inciter à l'intolérance.
On va parler d'actualité avec vous. Vous allez nous donner votre regard sur l'actualité. Et tout de suite, ce sont les titres de ce samedi. Une explosion survenue ce matin dans un immeuble proche du centre de Bordeaux. Un garage et deux bâtiments se sont écroulés. Plusieurs personnes ont été blessées, dont une gravement. Nous serons en direct de Bordeaux dès le début de ce journal avec notre correspondant pour faire le point sur la situation. 5000 litres de bière qui vont peut-être partir à la poubelle. Conséquence de la fermeture des bars et des restaurants, un entrepreneur s'est retrouvé avec sa bière artisanale sur les bras et il cherche à tout prix un moyen de ne pas la jeter. Cela représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Situation très tendue en Birmanie après le coup d'État contre le pouvoir en place qui a eu lieu lundi dernier. Le plus gros rassemblement se tient depuis ce matin. 3000 personnes manifestent dans les rues de Rangoon. Les communications sur Internet et sur les réseaux sociaux ont été bloquées. À la une également, c'est le début du tournoi des Six Nations en rugby. Coup d'envoi du match Italie-France tout à l'heure à 15h15 à Rome. Après les belles performances de l'automne, le 15 de France par favori. Et puis la météo avec vous Valérie. Alors tout d'abord, de nombreux auditeurs nous demandent depuis ce matin ce qu'est ce ciel jaune au-dessus de Lyon et de sa région. On reçoit beaucoup de photos, c'est très impressionnant, mais quelle en est l'origine?
Alors c'est vrai que c'est assez rare sur la région lyonnaise. C'est beaucoup plus fréquent dans le sud-est en général ou encore en midi toulousain. Là, ça remonte un petit peu plus haut. Et ben c'est une tempête de sable qui sévit dans le Niger. Ça part du Niger et du Mali et ça remonte. Ça traverse tout le continent africain. Franchement, elle est coriace quand même, cette bande de sable. Ça traverse aussi la Méditerranée et remonte donc principalement vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. c'est pas grand chose, sauf qu'effectivement, si on a des problèmes pulmonaires, bah, vaut mieux rester à l'intérieur parce que c'est du sable, comme ça, c'est volatile, c'est de la poussière, donc forcément, c'est pas très, très bon. Et dès que les pluies vont arriver dans le courant de l'après-midi, vers 16h, 17h, les pluies un petit peu soutenues, tout ça va tomber au sol, donc c'est pas la peine de faire ni les carreaux, ni laver la voiture cet après-midi.
Et on ne s'inquiète pas trop, donc.
Non,
rien
c'est
de
vraiment
grave.
Pas nécessaire. C'est
et donc,
assez
côté
fréquent.
Météo, c'est très arrosé encore, hein, ce week-end.
Oui, c'est ça, on a de grosses pluies à nouveau qui sont arrivées par le sud-ouest. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle à cause des crues, toujours d'actualité. 9 départements d'ailleurs du sud-ouest et du centre-est restent en vigilance d'ailleurs pour ces crues. On va avoir de grosses pluies encore dans le sud-ouest principalement, sur les autres régions un petit peu plus faibles. Côté soleil, rendez-vous en Bretagne, c'est là qu'il fera le plus beau aujourd'hui, puis on pourrait avoir quelques éclaircies également vers la Côte d'Azur et la Corse. Tout cela avec des températures très douces, ce qui explique effectivement aussi ce sable qui arrive du sud. On va avoir 16 degrés à Lyon cet après-midi, 19 à Marseille, 21 à Ajaccio, 11 à Paris, 10 à Strasbourg.
Merci Valérie, on vous reçoit à 18h.
Oui.
Car à 13h, c'est notre invité qui fait la météo, donc ce sera vous, Plantu. Et il en rigole déjà.
Le journal inattendu sur RTL.
On part tout de suite à Bordeaux. Une violente explosion a retenti ce matin dans le quartier des Chartrons. Un immeuble s'est effondré et un souffle a été ressenti dans tout le quartier. Plusieurs personnes ont été blessées et secourues par les pompiers. Une personne est actuellement recherchée. Nous sommes sur place avec l'un de nos correspondants RTL, Philippe de Maria. Bonjour Philippe.
Bonjour.
A-t-on plus de précisions à cette heure sur l'origine déjà de l'explosion?
Alors, écoutez, peut-être le gaz, selon les services de secours déployés en nombre ici, notamment avec une nacelle télescopique, mais c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Alain est un voisin. Il a été réveillé par le souffle de l'explosion qui a détruit ses fenêtres. Il raconte.
Une explosion, un gros bruit, un tremblement. Et j'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire. Après, je suis sorti de chez moi. Il y avait mes voisins qui étaient dehors aussi, en fait, en même temps. Et on ne savait pas quoi faire. On se demande ce qui se passe. On se demande comment réagir. On est juste choqué, quoi, en fait.
Et l'immeuble juste au-dessus d'un garage s'est donc écroulé. Écoutez les dernières précisions de la directrice de cabinet du préfet de Gironde, Delphine Balsa.
L'immeuble s'est entièrement effondré. Nous avons découvert sur place un homme de 89 ans, très gravement blessé, qui a été tout de suite évacué au CHU. Et ses jours sont en danger, son pronostic vital est engagé. Nous recherchons très activement la compagne de cet homme de 89 ans.
Et trois équipes cynophiles fouillent en ce moment les décombres de l'immeuble de la rue Bonnier, ici à Bordeaux.
Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Nous suivrons l'évolution de la situation avec vous, Philippe, dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, une marche blanche s'est lancée depuis la fin de matinée à Orgevillers, dans le Bas-Rhin, pour l'une des victimes présumées de Gabriel Fortin. Cet homme de 45 ans poursuivi pour avoir tué froidement deux DRH et une agente de Pôle emploi la semaine dernière. La matinée a démarré avec les obsèques émouvantes d'Estelle Luce, ancienne DRH. Pour le moment, Gabriel Fortin reste muet sur les raisons de son geste. Il a été transféré mercredi dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Même si pour le moment nous échappons à un reconfinement, la situation épidémique reste fragile en France. Plus de 22 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures et la pression hospitalière reste élevée. Au premier jour des vacances scolaires pour une partie du pays, le gouvernement demande aux Français de continuer leurs efforts et notamment d'accentuer encore le télétravail. En revanche, pour les secteurs où il n'est pas possible de télétravailler, comme la restauration, les conséquences économiques sont de plus en plus visibles. Aymeric Legrand est gérant d'une société en Seine-Maritime. Il a voulu relancer la bière locale et artisanale il y a un an et demi. Avec la fermeture des bars et des restaurants, impossible d'écouler ses stocks de bière. Il lance un appel pour éviter de jeter 5000 litres de boissons. Frédéric Veil l'a rencontré.
En pénétrant dans le hangar de cette jeune entreprise, on comprend très vite qu'Aymeric Legrand, le patron de la bière artisanale Made in Normandie, est dans une situation compliquée.
Aujourd'hui, là, il y a 250 fûts de bière. On a deux types de bière. On a une bière blonde et on a une bière IPA. Ça représente environ 5000 litres de bière.
5000 litres qui risquent fort d'être jetés car la date limite de consommation arrive à expiration.
On a une bière qui est artisanale et qui est bio, donc les délais sont beaucoup plus courts. Donc ils ont 4-5 mois de stockage dans notre hangar. On n'a pas envie de la jeter, donc tout simplement on a lancé une bouteille à la mer et là on est en train de se rendre compte qu'on a un grand élan de solidarité qui est en train de se créer en Normandie. On a beaucoup de contacts qui nous proposent des solutions, des alternatives et qui vont nous permettre je l'espère, de ne pas jeter bêtement de cette bière.
Ces contacts sont entre autres quelques restaurateurs qui font de la vente à emporter et qui ont promis de mettre la bière Made in Normandie à leur carte, ou encore un pub qui, grâce à un procédé de réembouteillage, va permettre de mettre cette bière pression en bouteille.
Le reportage de Frédéric Veil pour RTL, ça vous fait réagir?
Oui, parce que de fait, ils disent que il y a une bouteille à la mer. Évidemment, on a envie de dessiner des bières comme ça, avec un petit parchemin à l'intérieur que des futurs consommateurs vont ouvrir et puis déguster.
Et puis on espère que tout ça n'aura plus lieu très bientôt. On en vient à cette information RTL concernant l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame. Les tout derniers prélèvements sont en cours avant de clôturer les investigations de terrain. Depuis jeudi, des experts passent en revue les débris et gravats tombés sur les voûtes qui sont au-dessus du transept sud. Le but est de rechercher les ultimes indices sur l'origine de l'incendie avant d'évacuer définitivement les derniers débris. Pour le moment, aucune analyse n'a permis de déterminer la cause du drame. Et les enquêteurs restent très pessimistes sur la possibilité de trouver finalement l'origine de ce feu. Plantu, évidemment, je pense à votre dessin, Marianne, qui porte un drapeau bleu-blanc-rouge avec Notre-Dame et les flammes qu'on voit derrière dessinées. C'était un dessin extrêmement émouvant.
J'ai voulu partager l'émotion parce que ma sœur, je me souviens, s'était mariée à Notre-Dame et j'adore cette cathédrale, alors que je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un pratiquant, mais c'est la culture, c'est notre culture. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit dessiner, qu'est-ce qu'on doit pas dessiner. Et je me souviens que je me suis empêché de faire une fine blague sur le gothique flamboyant, que j'ai pas fait ce jour-là, parce que je trouve qu'il y a un temps pour blaguer et un temps pour pleurer avec les gens qui sont ou des croyants ou des parisiens ou des français ou des amoureux de la culture.
Mais on s'est beaucoup ému aussi avec vous et avec vos dessins. On passe à l'actualité à l'étranger, écoutez ces manifestants très en colère à Rangoon, en Birmanie. C'est le plus gros rassemblement depuis le coup d'État lundi dernier. En ce moment même, 3000 personnes défilent dans les rues de Rangoon et défient le pouvoir en place. Internet, réseaux sociaux, tous les moyens de communication ont été drastiquement restreints, voire coupés. Nous sommes en direct avec Brice Dugénie du service étranger de RTL. Brice, ce qui est sûr, c'est que c'est une contestation qui prend de l'ampleur. Les Birmans ne comptent pas se laisser faire.
Non, et d'ailleurs, cette contestation prend désormais différentes formes, puisque c'est pour la première fois hier et aujourd'hui, des manifestations, vous le disiez, sont descendues dans les rues à Rangoon, mais aussi dans d'autres villes comme Mandalay, un peu plus au nord. Et comme souvent, ce sont des étudiants, des jeunes, les enseignants, les fonctionnaires et les citoyens qui demandent un retour à l'ordre public civil, tel qu'il était avec Aung San Suu Kyi. Ils ne veulent pas de ce pouvoir militaire, ne veulent pas d'un retour en arrière pour revivre, vous savez, la dictature qu'ils ont connue autrefois. Cette contestation, elle existe sur Internet, mais avec les coupures et les perturbations, le pouvoir politique restreint l'accès à Facebook et Instagram, ces espaces privilégiés pour faire passer des images et des infos. Enfin, dernière chose, la désobéissance civile à laquelle avait appelé Aung San Suu Kyi au moment de son arrestation, eh bien certains l'appliquent. Des employés des ministères, des professeurs, des médecins ne se rendent plus sur leur lieu de travail avec l'espoir que, en bloquant un peu le fonctionnement du pays, ou tout au moins en le perturbant, eh bien les militaires reviennent sur leur position.
Et est-ce que, Brice, le mouvement peut faire jusqu'à plier les généraux ?
Alors, pour l'instant, la contestation n'est pas d'une ampleur suffisante pour faire renoncer les militaires, mais évidemment, plus elle sera forte et plus ce pouvoir militaire devra se dévoiler, c'est-à-dire soit la réprimer dans la violence et avec les armes, soit laisser faire. Et c'est là que la communauté internationale, avec les Nations Unies, les États-Unis, mais surtout la Chine, auront un mot à dire et un rôle à jouer. On sait qu'historiquement, la Chine a une proximité avec les militaires birmans et Pékin n'a pas encore vraiment condamné ce coup d'État. Elle dit juste comprendre l'inquiétude de la communauté internationale. C'est pour l'instant un peu timide pour espérer un retour rapide à ce pouvoir civil.
Brice Plantu est avec nous. Il a dessiné la Birmanie et notamment Aung San Suu Kyi à l'époque.
Oui, depuis une vingtaine d'années. Et évidemment, j'ai beaucoup de respect pour cette dame qui avait obtenu un prix Nobel de la paix, mais à la fois qui m'avait dérouté au moment où les Rohingyas, ces musulmans de Birmanie et de cette région, essayaient de survivre. Et je trouve que le fait qu'elle n'ait pas voulu soutenir des Rohingyas m'a cassé un peu des élans, ce qui fait que j'ai fait un dessin dans Le Monde, à la Une du Monde, pour critiquer évidemment le coup d'état militaire, mais à la fois j'ai pas pu faire un dessin qui puisse faire quelque chose de positif sur Aung San Suu Kyi, parce qu'elle nous déroute un peu, à tel point que j'avais même envie de la faire en train de dans une prison et qu'avec des Rohingyas qui se foutaient d'elle, qui disaient libérer Aung San Suu Kyi, libérer Aung San Suu Kyi, et elle disait non non pas eux, et donc du coup je préfère, en plus il peut se passer beaucoup de choses, et puis faire paraître un dessin, s'il peut y avoir avec ces manifestations, ici il y a des morts, des trucs comme ça, il vaut mieux, il y a un temps pour rigoler, mais peut-être plus tard.
Merci Plantu et merci Brice Dugénie du service étranger de RTL pour toutes vos précisions. L'actualité sportive avec du rugby, le tournoi des Six Nations débute cet après-midi à Rome, Italie-France. C'est à partir de 15h15, le 15 de France va tenter de confirmer ses belles victoires de l'automne et démarre même le tournoi en tant que favori. Évidemment, les joueurs respectent des normes sanitaires très strictes, isolement à l'hôtel, conférence de presse en visio, test. Et les matchs de ce tournoi des Six Nations se joueront tous à huis clos. Et puis en foot, J-1 avant le Classico au MPSG, ce sera demain soir. Mais avant cela, le programme de cette 24e journée de Ligue 1, Reims-Lorient à 17h, Lyon-Strasbourg à 19h et Lens rencontre Rennes à 21h. Bien sûr, on refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot à partir de 20h. Plantu, fallait bien que ça arrive, même si personne ne voulait y penser, ça y est. 31 mars, ce sera terminé. On verra plus vos dessins en Une du Monde. C'est une sacrée page qui se tourne. Après avoir publié près de 50 000 dessins pour le journal, pourquoi ?
D'abord parce que ça fait 10 ans que je demande aux différents directeurs de penser aux petits jeunes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de faire des dessins. Je pense aux dessinatrices, aux petits dessinateurs qui ont envie de faire partager une opinion sous forme graphique. Et je trouve que le temps passe. Et puis j'ai un ami que j'adore, qui a été directeur de la rédaction du Monde, qui s'appelait Bruno Frappa. Et évidemment, faire un dessin à la Une du journal, Le Monde, c'est un journal sérieux quand même, et puis le dessinateur, il est là un peu pour déconner. Et je me souviens qu'on se fritait un peu avec Bruno Frappa, c'était il y a 25 ans, et je l'adorais, et je l'adore toujours. Et Bruno Frappa, une fois, il est rentré au journal, et il m'a dit, alors on s'était engueulé la veille, hein, il m'a dit, j'ai rêvé que t'étais devenu immortel. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je réfléchisse.
Le rêve ou le cauchemar?
Oui, c'était un cauchemar. Il, avec ses yeux, il disait que c'était un cauchemar. Et donc, je me suis dit, un jour, il faudrait quand même que je réfléchisse à ne pas à savoir tirer la révérence. Et en plus, il se trouve qu'avec Jérôme Fenoglio, le directeur actuel, j'ai enfin obtenu le fait que, quand je partirai, dès le 1er avril, il y aura des dessinateurs de cette association que j'ai créée avec Kofi Annan, Cartooning for Peace. Et il y aura le lundi une vénézuélienne, le mardi une chinoise.
Alors justement, l'idée pour vous remplacer est plutôt bonne. Ce n'est pas une seule personne, mais plusieurs, même de nombreuses personnes qui vont prendre la relève, qui vont se relayer, des dessinateurs du collectif Cartooning for Peace, vous venez de le dire, que vous avez créé en 2006, des hommes, des femmes, plutôt jeunes, hein, oui, souvent, oui, et qui viennent du monde entier. Parlez-nous d'eux.
Et plutôt des femmes, d'accord. Oui, parce que quand Kofi Annan m'avait dit, au moment des fatwas contre les dessinateurs danois, qui avaient été connus à cause de ses dessins dits du prophète, il m'avait dit, faut réagir, parce qu'il y a des manipulations qui sont faites par des imams, et qui font qu'ils font croire que les Danois, le Danemark, l'Europe, veulent humilier le monde musulman. Et évidemment, je les connais, les Danois, je suis allé à Copenhague plusieurs fois, évidemment, ils ne se lèvent pas le matin, comme nos amis de Charlie Hebdo ne se sont jamais levés le matin pour humilier le monde musulman. Or, il y a 1,5 milliard de musulmans qui l'ont mal vécu. Donc, il a fallu que je prenne mon petit bâton de pèlerin, on pourrait dire, et que je suis allé dans le Maghreb, au Proche-Orient, jusqu'à Gaza, pour dire à tous mes amis musulmans, mais vous savez, ce sont des déconneurs, ce sont des dessinateurs de presse.
Et comment vous avez été accueillis?
Oh, toujours très bien. Alors là, bah, ça fait des années que je vais dans ces coins-là. Tout, alors, vous n'imaginez pas. Je me souviens qu'en Égypte, j'étais accueilli par Mustapha Hussein, qui était le président de il était le plus grand dessinateur égyptien. Et il y avait tous les dessinateurs du Proche-Orient qui étaient là. Mmh. Et c'était, il m'avait même fait un gâteau avec mon nom dessus. C'était émouvant. Et à la fois, je leur disais, mais vous savez, moi je travaille aussi avec des dessinateurs juifs, chrétiens, musulmans, et puis donc des Israéliens. Alors là, petit blanc, mais ils le comprennent. Ils disent non, pas pour nous, mais à la fois ils comprennent que j'essaye de faire des ponts entre les opinions, les religions et les cultures.
Ce que vous dites, c'est que finalement, vos dessins, c'est ni plus ni moins un outil de communication. Entre les peuples, entre les religions, entre les différentes cultures.
Mais attendez, moi je le découvre. Moi, au début, quand j'ai présenté en 72 mon premier dessin sur la guerre du Vietnam au monde, moi je vendais des meubles au guerrier Lafayette, je vendais des meubles et des escabeaux en métal, que je vendais très bien d'ailleurs. Et donc, du coup, je fais un premier dessin, un deuxième. Et puis au bout du troisième dessin, j'ai reçu un chèque. Je lui ai dit, mais ils sont fous, je fais des dessins. Je leur ai dit, oh, réveillez-vous. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, j'ai compris que c'était un métier qui s'appelle dessinateur de presse. Et puis après, grâce à l'image du journal, il ne faut pas oublier que l'image du monde m'a permis d'aller au Soudan, d'aller en Amérique latine, d'aller en Russie, d'aller au Japon, voilà. Dans des coins un peu compliqués, comme en Iran. Et c'est là que j'ai fait un réseau d'amis, de dessinatrices, de dessinateurs. Et c'est là que, au moment où il y a les fatwas contre les dessinateurs danois, moi j'avais tout le réseau pour essayer de les inviter à l'ONU et d'essayer de comprendre comment on pouvait faire des ponts entre les opinions et les religions. Et en fait, ça marche très bien. Et quand je rencontre des musulmans, et d'ailleurs j'étais allé à quelques temps après, en 2015, quelques semaines après la tragédie de Charlie Hebdo, j'étais allé à Chypre, j'avais rencontré des dessinateurs orthodoxes et musulmans, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que les dessins, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire des... Je dis, mais attendez, vous êtes dessinateur de presse, vous savez ce que c'est qu'un dessinateur, on flirte avec la ligne rouge, et à la fin ils comprennent, c'est pas du tout un geste anti-musulman, c'est un geste de franche rigolade sur des sujets où on se fait plaisir, parce que l'actualité, moi j'ai un grand respect pour le Ophélie avec toute votre équipe ici à RTL, et merci de me donner l'occasion de partager cette passion. Je suis passionné par la vie politique et la vie sociale. Et grâce à vous, vous nous donnez énormément d'infos grâce à vos correspondants. Et moi, je prends des notes. Mon papier...
Oui, c'est vrai, pendant tout le journal, je confirme.
J'arrête pas de prendre des notes. Et ces notes se transforment au bout de mes feutres, et au bout de mes feutres, par un petit dessin. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et pourvu qu'au bout du compte, on puisse se dire, tiens, mais je vais m'adresser aux lectrices et aux lecteurs du journal Le Monde. Et puis, les internautes aussi, je balance aussi mes dessins sur Facebook, Twitter, Instagram. Et ce sont des gens que je ne connais pas, mais avec qui j'ai l'habitude de partager des images. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès d'eux parce que des fois, ils m'envoient très gentiment des messages pour me dire, on a besoin de ceci. Je peux pas répondre. Je peux pas. Ils sont des dizaines de milliers.
Ils sont très nombreux.
Mais à la fois, je partage une image, une opinion qui est pour moi un reflet de la vie politique du jour.
On est avec Plantu pour son journal inattendu. Dans un instant, vous entendrez ce que les Français pensent de la liberté d'expression en 2021. Et bien sûr, vous nous donnerez aussi votre avis. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu de Plantu
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Alors Plantu, à l'âge de 21 ans, vous envoyez votre premier dessin, publié au Monde, la fameuse colombe avec un point d'interrogation dans le bec. On est en pleine guerre du Vietnam, vous n'êtes pas anti-américain, mais c'est un combat qui vous révulse. Vous vous demandez ce que vont donner les accords de Paris, d'où ce point d'interrogation. Dans le bec de la colombe, il faudra attendre 75 pour la fin de la guerre. Au fil des années, on se dit quand même que vous avez pris un peu confiance en vous. Il y a eu 49 ans de dessin. Eh bien, pas forcément. D'ailleurs, vous me regardez, vous dites non.
Le fait qu'il y ait un monsieur là en régie qui dit RTL, Plantu. Je me dis, mais attends, il parle de qui là? Non, je m'y fais pas. Non,
Alors, page 134 du livre Plantu, 50 ans de dessin, le journaliste Éric Fotorino décrit ce grand stress auquel vous faites face le matin, trouver la bonne idée, la peur de se répéter. Racontez-nous comment ça se passe le matin avant d'envoyer votre proposition ou vos quelques propositions de dessin au journal Le Monde. Vous vous levez et là, il se passe quoi?
Alors déjà, je me lève, mais déjà dans la nuit, je me suis envoyé des textos parce que je les oublie après. Et donc, j'aime bien me réveiller la nuit... Je regarde deux, trois mails, juste parce que ce qui est bien, c'est que je me rendors tout de suite. Alors, donc, il y a ça, et puis je regarde le suivi sur lemonde.fr, et je vois deux, trois, mais il y a ça que je peux peut-être utiliser. Vous voyez, par exemple, je discutais avec un copain journaliste hier au Monde, Et puis on a parlé de cette expression peu importe le flacon pourvu qu'on ait de l'ivresse. Et du coup, flacon, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. J'ai pas trouvé, hein. Mais je vous dis, c'est pour vous demander comment ça se passe. Et du coup, je m'imaginais des, comme je vais beaucoup dans les hôpitaux, parce que je fais des expos en ce moment dans les hôpitaux, j'imaginais des chercheurs avec tout habillé en bleu clair, tout là, avec un flacon, avec les piqûres. Et du coup, comme on parle beaucoup du vaccin et puis de tous ces gens qui font à la fois un boulot formidable parce qu'ils vont trouver et ils ont trouvé le vaccin. Et puis il y a ceux aussi qui se lèvent le matin en faisant du business. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, peu importe le flacon.
En tout cas, ça cogite tout le temps.
Oui, parce que ça peut être à un moment, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait le business. Il y a peut-être un truc à trouver. J'ai encore pas trouvé, mais vous voyez, je cherchote.
Vous cherchez, et puis à un moment, l'idée vient.
Et je balance le matin au rédacteur en chef 3, 4, 5, 8 dessins. Mm-hmm. Et puis, reçoivent et puis ils me disent, on choisit le numéro 3, voilà, et ça roule comme ça.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez passionné par la politique, vous avez vu passer et croquer 7 présidents de la République, il paraît que celui qui vous manque le plus, c'est Nicolas Sarkozy. Pourquoi ?
Oh, il était sympa à dessiner. Enfin, j'utilise un parfait. Mais sympa à dessiner, très rigolo, parce que mon Sarko à moi, avec ses yeux qui tombent comme ça, une mâchoire assez forte. Je le faisais à la règle en plus. Moi, je me souviens que mes profs de dessin au lycée Henri IV, quand j'étais petit, me disaient « Arrête d'utiliser ta règle ». Mais Sarko, il se fait à la règle. Mmh. Je suis désolé.
Le crâne très droit au-dessus.
Exactement.
Je vois très bien.
Et il me manque pas en tant que citoyen, mais en tant que dessinateur. Ouais, il est sympa à dessiner. En plus, je faisais les yeux, la règle, la tête comme ça. Je faisais deux pattes comme ça. Et le dessin était fini.
Que pensent les Français aujourd'hui de la liberté d'expression ? On a voulu leur poser la question, alors on les écoute avant que vous me répondiez. Ils sont au micro RTL d'Aurélia Valarié.
J'apprécie beaucoup l'humour, les humoristes et ces dessinateurs. Je trouve qu'ils ont une forte personnalité et qu'ils nous aident à vivre des moments parfois difficiles.
C'est un mode d'expression qui est essentiel, auquel effectivement il faut avoir accès. Il faut aussi être éduqué à la réception de ses dessins. C'est important. Pour toutes les générations.
Bah, une image parle des fois plus qu'un texte, quoi.
Une forme de liberté qui doit persister et signer, voilà.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous vous sentez libre de parler de tout, de tous les sujets, tout le temps, aujourd'hui, en France, en 2021, en tant que dessinateur de presse ?
Alors, moi, j'ai toujours dit, ça fait depuis le début, la vie privée des femmes et des hommes politiques, j'y touche pas. Il y a des fois des sujets où il faut savoir attendre. Je me souviens que dans les années 70, on avait un directeur que j'aimais bien, qui s'appelait Jacques Fauvet. Et quand je dessinais Mitterrand avec une petite verrue dans les années 70, il dit non, pas Mitterrand avec une verrue. Donc, pendant 10 ans, j'étais interdit de verrue. Bon, c'était pas très grave. Au bout du compte, je m'aperçois que ça fait 50 ans, quand même. Et en fait, il n'y a pas un sujet sur lequel je puisse dire, ça, j'ai pas pu le dire. J'ai toujours pu dire. Et en plus, mes rédacteurs en chef que je, les pauvres, je les ai pas arrangés quand même des fois de temps en temps parce que j'insiste. Et quand je crois à une idée, je la balance tous les jours jusqu'à temps qu'elle passe. Et comme par hasard, toutes ces idées auxquelles je crois, elles finissent par passer.
Guerre, religion, harcèlement, inceste et même transidentité. Alors je vous pose la question parce que
dessin
c'est un peu
casse-gueule.
Ouais, ça peut être un peu dessin casse-gueule. Je pense à Xavier Gorce,
qui a démissionné,
que vous défendez.
Oui.
Donc qu'est-ce que vous lui auriez dit à Xavier Gorce si jamais vous avez montré son dessin avant de l'envoyer au Monde pour le publier ?
Ah, ça c'est autre chose. D'abord, moi, je découvre le dessin au moment de la polémique, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des gens qui se sont arrogé le droit de dire au nom des transgenres, on n'a pas le droit de faire de l'humour. Alors que
juste pour bien comprendre, je rappelle le dessin de Manchot, un adulte, un enfant. L'enfant dit à l'adulte, si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ? Donc on a deux sujets, là on a l'inceste et la transidentité.
Ah, vous le racontez très très bien. Vous avez une locution de rêve.
Non,
c'est vrai. Hein.
C'est la voix.
C'est parfaitement dit. Et je trouve qu'évidemment que c'est casse-gueule. Évidemment et le dessinateur, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un barman avec son shaker. Et puis il secoue tout ça. Et puis ça fait. Et puis quand je l'ai découvert, ce dessin, je me dis, hop, c'est rigolo. Alors je me suis rendu compte qu'il y aurait une vague de protestations. Mais c'est toujours les mêmes. Des gens qui ne signent pas, des gens qui ne disent pas qui ils sont.
Enfin là, il a quand même démissionné au final.
Oui. Oui, mais c'est parce que
c'est, allé,
c'est parce qu'il y a eu un malentendu. Moi, je lui ai dit, surtout ta vraie famille, tu sais que c'est le journal Le Monde. Hein. Et je le soutiens, je trouve que son dessin, il est drôle, il me fait rire. Et donc, il s'est frité avec la direction. Il est parti, et je pense que là où il va aller, il va vite regretter le journal Le Monde. Parce que, en fait, c'est sa vraie famille.
Dans un instant, rappel des titres et puis votre reportage inattendu. On part dans une classe de CE1 un peu particulière. A tout de suite.
Le journal inattendu de Plantu
avec Ophélie Meunier sur RTL.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Plantu.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Une forte explosion ce matin à Bordeaux, dans un petit immeuble pas loin du centre. Plusieurs personnes ont été blessées et une est à cette heure toujours portée disparue. L'explosion a détruit un garage et deux bâtiments attenants. D'après les premières constatations, l'origine des dégâts serait une explosion due au gaz qui a été coupé dans le secteur. La crainte principale des pompiers, c'est que des bâtiments mitoyens aient été fragilisés et finissent par tomber. L'épidémie de Covid-19 semble se maintenir à un niveau élevé en France, mais ne s'envole pas, raison pour laquelle nous ne serons pas confinés pendant ces vacances scolaires. En revanche, la pression est forte sur les hôpitaux et les personnels de santé s'inquiètent. À Paris, par exemple, la déprogrammation de certaines interventions a commencé et les hôpitaux sont pessimistes sur les semaines à venir. Et sachez que si vous habitez Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme vient de prendre un arrêté pour empêcher la consommation d'alcool après 15h. Sur plusieurs places de la ville, l'objectif, c'est d'éviter les apéros sauvages, vecteurs de contamination selon les autorités. C'est un week-end éprouvant pour les inondés du Lot-et-Garonne et notamment à Marmande. Des inondations d'une ampleur inégalée depuis 40 ans ont touché la commune. Et même si la décrue a commencé, les sinistrés doivent désormais réparer les énormes dégâts. Le Premier ministre, je le rappelle, souhaite que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré dans les meilleurs délais. Les habitants, eux, vont se remettre très doucement de cette crue historique de la Garonne. En Birmanie, la colère gronde. Après le coup d'État lundi dernier, à bas la dictature militaire. Voilà ce que l'on peut entendre dans les rues de Rangoon. Plusieurs milliers de personnes défilent pour défier le pouvoir en place. Comme au moment du putsch, Internet et les réseaux sociaux ont été coupés. Plus que jamais, les Birmans ne comptent pas se laisser faire et feront tout pour faire plier les généraux. Et puis Jean-Michel Rascol nous a rejoint dans ce studio pour parler rugby. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Le tournoi Destination aura bien lieu. Il débute dans un peu plus de 2 heures à Rome. Le 15 de France affronte l'Italie. Jean-Michel, les Français sont dans une telle dynamique positive qu'ils démarrent le tournoi avec l'étiquette de favori. Hein.
Oui, c'est un qualificatif un peu flatteur, même si cette étiquette de favori ne vient pas des Français eux-mêmes, mais plutôt de leurs adversaires. L'écho des belles dispositions affichées par l'équipe de Fabien Galthié à l'automne ayant même résonné jusqu'au pays des All Blacks. Cet après-midi, dans un stade olympique d'habitude si coloré, l'équipe de France doit faire preuve de caractère et d'autorité pour se rendre le match facile, loin de la peur au ventre qui a parfois saisi ses devancières lors d'humiliantes défaites en 2011 et 2013. Ce rendez-vous romain est une étape avant le premier choc de ce tournoi samedi prochain à Dublin qui scellera les ambitions réelles du 15 de France dans ce tournoi. Alors c'est le moment d'enlever son masque dans tous les sens du terme. Le maillot bleu du samedi après-midi réchauffe les cœurs, c'est bien connu. Allez les petits.
On regardera et on suivra ça évidemment avec vous. Merci. Merci Jean-Michel. Et du football demain, le classico OM-PSG, match très attendu des deux côtés. La star brésilienne Neymar ne s'est pas entraîné ce matin, a annoncé le PSG, touché par une gastro-entérite. Une évaluation sera faite les prochaines heures pour savoir s'il peut être du déplacement à Marseille ou non. Et la météo, à 13h, c'est notre invité qui l'a fait. Alors c'est à vous de nous donner des nouvelles du temps, Plantu.
Alors je lis le texte. Météo encore très arrosée. Cet après-midi, sauf en Bretagne, mais ça c'est une bonne chose, parce que la Bretagne, en général, on se moque d'eux, mais là, finalement, ils ont du soleil. Et le soleil s'imposera largement. Il gagnera même le Cotentin et la Loire-Atlantique. On trouvera par ailleurs quelques éclaircies sur le flanc est, mais pour tous les autres, ce sont grisailles et pluies qui domineront avec des vents forts en Languedoc-Roussillon et en midi toulousain. Voilà, et je pense à cette bande de sable qui se balade au-dessus de Lyon. Et alors, votre personne là, qui s'occupait de la
Valérie
qui s'occupe de la météo, elle dit il va peut-être falloir qu'ils se confinent. Alors déjà à Lyon, ils ont déjà des masques et ils sont obligés de se confiner. Et puis alors, on va avec la bande de sable, ils vont se confiner davantage. Ce sera peut-être un masque africain puisque ça vient de quelque part en Afrique.
En tout cas, apparemment rien de grave, tout va bien. Et vous aviez demandé de parler. Aller en musique, c'est chose faite. Clair de lune de Debussy pour vous, cher Plantu.
Que j'adore. Et alors, je suis amoureux de la musique, mais je suis amoureux du cinéma. Et alors, dans un des Ocean's Eleven, je ne sais pas lequel,
c'est
il y en a
plusieurs. Premier, ouais.
C'est dans le premier.
Dans Ocean's Eleven, oui.
À la fin, on voit tous les acteurs, Brad Pitt, les autres, Matt Damon, et George Clooney. Et puis, qu'est-ce qu'on entend?
Julia Roberts, bien sûr.
Qui est une merveille. Surtout quand elle descend les escaliers. Et puis, il y a cette musique de Debussy qui nous fait rêver. Et ça fonctionne. Et je vous en parle, j'ai la chair de poule.
Mais vous parlez super bien du cinéma et de la musique aussi. Vous êtes très préoccupé par les jeunes également, Plantu, par leur bien-être, par l'égalité des chances et par la transmission. Un des lieux où se forgent le plus les jeunes, finalement, c'est l'école. Pour votre reportage inattendu, vous avez choisi de nous emmener à Trappes, en région parisienne, dans une école élémentaire presque comme les autres, presque, l'école Henri Vallon, classée réseau d'éducation prioritaire. Dans cette école, il y a la classe de CE1 de Madame Lichat, dans laquelle on retrouve une chaise un peu particulière, la chaise des émotions. Alors, que fait-elle là? À quoi sert-elle cette chaise des émotions? C'est un reportage signé Alexandre de Saint-Aignan.
Pour les enfants, comme pour la maîtresse d'ailleurs, ce siège semble avoir des pouvoirs magiques. Par exemple sur Yanis qui, il y a encore quelques mois, piquait des sacrées colères.
Il tapait, il donnait des coups de poing, des coups de pied.
Ça fait longtemps que t'as plus fait de crise là maintenant.
Oui.
Et puis dès que t'avais fini la chaise des émotions, qu'est-ce que tu faisais?
J'étais heureux.
Heureux, ouais. T'as bien géré tes émotions. C'est très
C'est
bien.
Une simple chaise noire au fond de la classe, une parenthèse émotionnelle pour la petite Lia.
La chaise des émotions, c'est quand par exemple on est fâché, on vient ici et il y a le cahier des émotions, on prend un stylo ou un crayon à papier et après et ben, on écrit. Par exemple, je suis aujourd'hui fâché contre et ben, quelqu'un.
Oui, la chaise des émotions doit permettre aux enfants de prendre du recul par rapport à leurs conflits du quotidien. Il y a aussi sur le mur l'échelle des émotions, une série de mots, de joyeux jusqu'à furieux. Les élèves viennent au fur et à mesure du cours coller leur étiquette à côté de l'émotion qu'ils ressentent.
Ce que j'ai proposé comme travail, apparemment, ça a plu. Parce qu'ils sont tous en haut de l'échelle. Visuellement, pour un enseignant, c'est très facile. Quand ils sont tous en bas, c'est que c'est pas top.
L'enseignement de l'empathie, c'est aussi les messages clairs, une méthode de résolution des conflits par le dialogue. La maîtresse, Madame Lichat, intervient uniquement quand c'est nécessaire.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le problème?
Lui, il me dit chien.
Ah, tu m'as dit chien, ça m'a un petit peu énervé. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour réparer?
L'idée derrière tout ça pour Valérie Lichat, c'est de contribuer à sa façon à une société plus apaisée.
Si les gens dans la société pouvaient se comporter comme ils se comportent là, bah, peut-être qu'il y aurait moins de soucis, de problèmes. Disons que ça serait réglé intelligemment, non pas de manière stupide ou violente ou démesurée comme des assassinats ou Monsieur Paty, on lui a enfin des trucs de fous quoi.
Une méthode d'enseignement qui gagne à être connue. Merci à vous, Plantu, pour ce coup de pouce. D'ailleurs, la petite Amina a encore quelque chose à vous demander.
Plantu, est-ce que tu pourras dessiner la chaise des émotions?
Ah,
Plantu,
mais...
est-ce que tu peux dessiner la chaise des émotions?
Mais c'est une très bonne question. Mais oui, bien sûr.
Alors, pendant la pub, je vous propose, Plantu, de me faire un petit quelque chose.
C'est drôle, parce qu'on a tous dessiné ensemble quand j'y suis allé à Trappes. Et ils m'ont demandé, la première chose, est-ce que vous pouvez nous dessiner une banane?
Et
j'ai dessiné des bananes. Et en fait, c'est toujours... Quand on dit le mot banane, tout le monde est content.
En tout cas, quelle excellente idée qu'a eue cette
ça fait
professeure
du bien,
d'école.
Surtout à un moment où il y a tellement d'intolérance, montée des violences. Bah, je remercie Valérie Lichat, qui est la... Et puis merci au reporter.
À Alexandre d'y être
allé. Parce qu'il est allé parce que ils savent que j'adore cette école. Et puis je trouve que Valérie Lichat, avec ses petits jeunes, elle leur... Alors c'est pas une matière, l'empathie, mais c'est quelque chose qui doit accompagner toute les journées avec les enfants. Et je vais m'y atteler. Elle a raison, la petite, de me demander de dessiner la chaise. Et d'ailleurs, dans la vie politique, de temps en temps, on devrait proposer la chaise des émotions. Un mec comme Jean-Luc Mélenchon, il s'assiedrait sur la chaise des émotions. Celui ferait du bien de
avec
temps en temps.
Avec son petit cahier pour d'autant écrire ce qu'il ressent.
D'autant plus que Mélenchon, il sait dessiner, il était caricaturiste dans les années 70.
Donc sur la chaise des émotions, Jean-Luc Mélenchon qui fera une caricature. On a hâte de voir ça.
On lui donnera des pastels.
Votre invité nous a rejoint dans ce studio, c'est Catherine Fraud. Merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Vous êtes avec nous juste dans un court instant. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Plantu
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le tapis rouge du Festival de Cannes pour accueillir notre invitée d'honneur, Catherine Fraud. Merci d'être avec nous. Je voudrais vraiment vous dire que ça nous fait très plaisir de vous avoir parce que ça fait plusieurs semaines, mois peut-être, qu'on n'a plus d'acteurs, de comédiens de théâtre dans nos studios et ça nous manque beaucoup. C'est une situation particulière, une situation voilà, où vous êtes résigné, en attente, mais en tout cas, on est très content de vous avoir.
Merci.
Alors, Plantu vous a invité parce que Plantu a créé une fondation qui a pour but de mettre en contact des jeunes qui se croient oubliés de tous face à des personnes qu'ils admirent. Et donc, avec vous, Catherine Fraud, vous aviez organisé un super événement, 20 jeunes qui devaient assister à une pièce de théâtre dans laquelle vous deviez jouer. Ils devaient même passer un peu de temps avec vous après la représentation de votre loge. Ça, c'était il y a tout juste un an, projet avorté, puisque l'épidémie nous est tombée dessus instantanément, enfin à ce moment-là en tout cas.
Oui,
c'est un très beau projet.
C'était en fait, on avait invité 20 jeunes de la fondation, enfin par la fondation, qui pour assister à une représentation de La Carpe et du Lapin que j'ai eu le temps de jouer à peine 3 semaines. Et qui s'est arrêté, mais quelques jours avant que ces jeunes gens viennent. Effectivement, moi, ça me plaisait l'idée de les rencontrer après, parce que je trouve que cette histoire de fondation, c'est génial de donner l'occasion à des jeunes gens de comprendre un peu comment fonctionnent des choses auxquelles ils ont a priori absolument pas accès. Et donc, tout ce qui est de l'ordre des métiers artistiques, que ça soit dessinateur, que ça soit acteur, que ça soit le théâtre, le cinéma, la musique. Et donc là, c'était une des interventions possibles. Moi, j'espère qu'on en fera d'autres. Bien c'est sûr. Évident.
C'est
parce que moi, je trouve
remise.
Ça, moi, ça me plaît. De toute façon, l'idée de transmission, moi, me travaille. Là, depuis 2-3 ans, ça me travaille vraiment.
Vous, c'est un peu votre histoire, en fait, Plantu. Vous adoriez le monde de la presse et du journalisme, des médias.
Et
vous connaissiez personne. Non, il a fallu envoyer beaucoup de dessins.
Il y a eu des mains tendues. Un gars à l'accueil du journal qui veut bien me laisser rentrer. Et puis, en plus, un autre, un garçon d'étage qui veut bien me mettre en lien avec un rédacteur en chef qui me reçoit 20 minutes dans son bureau. Donc, et ces mains tendues, c'est ça qu'on essaye de construire, et on va le refaire évidemment avec Catherine Fraud, que je remercie mais vraiment du fond du cœur. La première fois que je crois que je vous ai rencontré, je crois que je vous ai dit que je vous aimais, mais je dois pas être le seul. On est plusieurs à vous aimer, mais vous incarnez pour moi un amour de France. C'est-à-dire que on vous a jamais demandé de faire d'être une Marianne, non
si je suis une Marianne, dans vos dessins, elles sont trop mignonnes, les Marianne. Elles sont trop mignonnes à chaque fois.
On s'était vu au moment de quand vous avez fait Fleur de Cactus. Et je trouve que ce dessin, j'adore vos joues en plus, j'adore votre jeu.
Catherine
Fraud
en Marianne.
Et en plus, vous n'étiez pas infirmière, vous étiez à l'accueil d'un dentiste dans cette mise en scène formidable. Et moi, j'adore le travail que vous faites. C'est un dessin que j'ai fait pour vous, évidemment.
Pour moi ?
Mais j'ai même l'original. Je vous donne l'original maintenant. Parce qu'il y a l'original, et puis après, il y a le dessin où on rajoute les couleurs. Mais à la fois, quand je dis qu'il y a un amour, c'est que je me suis dit, mais c'est ce que je ressens quand je vais dans les hôpitaux, parce que j'ai pas mal d'expos dans les hôpitaux. Et je me suis dit, mais... Ça lui va bien à Catherine Fraud de se retrouver. Je vous vois bien. En ce moment, vous n'arrivez pas à tourner des films, mais vous allez voir. Vous allez remettre un masque et vous allez tourner des infirmières, des médecins, des chercheuses. Vous allez voir, ça va être le gros sujet des 10 prochaines années et on va se régaler à vous écouter. Et puis j'ai une question. Je ne connaissais pas Jean-Pierre Bacri, mais il y a un moment dans le film qui est passé il n'y a pas très longtemps, vous dansez avec Daroussin et vous balancez vos godasses pour danser avec lui. Cette scène, vous l'avez tournée plusieurs fois avant, parce que les godasses, vous les balancez très très bien.
On a joué la pièce un an, et je savais balancer.
Il y a une manière de balancer les godasses.
Je peux vous dire, il y en avait une.
La maîtrise de la balance.
Il a fallu quelques représentations, mais il y a un moment, et c'était jouissif dans la salle. On entendait, comme si j'avais mis un but avec ma chaussure.
Exactement.
Exactement. Donc après, pour le tournage, j'étais prête.
Et quel régal de vous voir à chaque fois, ou au théâtre, au cinéma, et racontez-nous un petit peu comment vous.
Oui, est-ce qu'on peut vous demander comment vous vous sentez là professionnellement, frustrée, résignée, impatiente de redémarrer?
J'ai retrouvé un dessin assez récent de vous que je trouve génial, qui est il y a quelqu'un d'un peu volumineux qui est médecin, infirmier. Tout ça en bleu et blanc, ça datait du 4 février dans Le Monde. Et de cette combinée, cette blouse d'hôpital, voilà, génial. De cette blouse d'hôpital sort un petit troubadour théâtral avec sa guitare et qui dit, bon ben, vous nous dites quand on peut jouer.
Pour ceux qui n'ont pas gardé.
Donc, c'est fantastique. J'adore ce dessin.
En ce moment.
Et je me sens exactement comme ce petit troubadour. Vous nous dites quand vous êtes prêts, les gars.
Est-ce qu'on va pouvoir reprendre ?
Non, c'est toujours pas. Si, peut-être. Quand est-ce qu'on va y aller ? Non, mais il y a une fatalité. Hein.
Vous
n'y
avez
rien.
Passé un an, finalement, à parler, faire la promotion.
Oui, moi, j'ai fait la promotion de deux films.
Qui devaient sortir, et puis finalement, non. Alors, parlez-nous de ces deux films, quand même, parce qu'on espère les voir un jour.
Bon, c'est gentil de. Oui, en fait, c'est sous les étoiles de Paris. C'est dommage parce que on avait laissé les affiches sur toutes les colonnes Maurice et c'est Jean-Claude Decaux là qui fait sa pub pour la solidarité. Bon, j'ai pas aimé ça. Il y a plus les affiches, c'est dommage. Bon, enfin bref.
Elles vont revenir.
C'est sous les étoiles de Paris de Klaus Drexel où c'est une histoire de solidarité aussi puisque c'est deux miséreux, une clocharde et un petit enfant de migrant probablement qui a perdu sa mère sur la route de ces migrants, et elle va l'aider, disons, c'est une traversée de Paris de deux miséreux. J'adore ce film, et c'est un conte, voilà. Mais il est sorti deux jours, vous voyez.
Et vous ça savez s'est ce arrêté. Qui va se passer, ça, il va ressortir,
bah
ce
oui,
film, quand même.
Disons qu'il va même ressortir en premier, mais bon, c'était un film fait pour Noël, et malheureusement, il va sortir en juin ou juillet, en plein printemps. C'est pas tout à fait le sujet rêvé. Quoique c'est un conte, ça peut passer, mais bon.
Plantu a choisi un air de musique qui devrait vous plaire. On écoute L'heure exquise, interprétée par Irène Jomillo et Marcel Merckx.
Dans les beaux jours. C'est une voix d'opéra.
Vous voulez nous l'interpréter ? Je l'ai que note.
Mais je l'ai joué à la fin de Oh les beaux jours de Beckett. Elle le chante, là. Elle est en train de s'enterrer vivante.
Dans le sable.
Alors, Heure exquise par Catherine Froh.
Là, maintenant, là ?
Ouais.
Ouais.
On essaye ?
Ok.
On baisse la musique. Allez-y.
Heure exquise qui nous grise lentement, la caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit, gardez-moi. Puisque je suis à vous.
Difficile de reprendre après ça. Merci. Ça, c'est un beau cadeau.
Merci.
Voilà, en attendant d'avoir du cinéma et des représentations au théâtre, vous nous avez fait du bien. Merci, Catherine Froh.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et merci de nous faire confiance. Et puis, avec des petits jeunes, dès que ça rouvre, on reprend des places. Voilà. On vient vous voir. Et puis surtout, avec tous ces jeunes qu'on rencontre un peu partout en France et en Europe, ils ont une envie de s'exprimer. Ils ont des admirations, ils veulent rencontrer des actrices, des acteurs, et ils pensent à chaque fois que c'est très lointain. Et avec la fondation qui porte mon nom, on arrive à faire cette jonction où, des fois, ça peut être des gens qui s'intéressent aux professionnels de la cuisine, au sport, et nous, on facilite les choses. Ou par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était dans une banlieue compliquée, ils avaient fait une expo pour montrer les enfants de la guerre. Les enfants soldats. Et donc, ils ont fait une expo formidable, mais les parents n'y vont pas à leurs expos. Et donc, c'est tout un travail social très important. Nous, on met quoi, 300, 500 euros pour faire un petit catalogue. Et puis, comme ça, ils le partagent avec leur famille, avec leur... Et donc, le monde des artistes, le monde des actrices, c'est pas si lointain. Il faut juste faire cette petite passerelle entre les deux. Merci encore, Catherine, pour vos
confiance. De leur rencontre avec vous, Catherine Froh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un court instant sur RTL. À tout de suite.
journal inattendu de Plantu avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu de Plantu
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Alors finalement, on était tellement content d'avoir qui discute avec Plantu. On était tellement content d'avoir Catherine Froid avec nous qu'on l'a gardée dans ce studio. Il y a un autre film qui devrait bientôt sortir, dans lequel vous jouez et dont vous vouliez nous parler aussi aujourd'hui et dont on a envie d'entendre parler.
Oui, ça s'appelle Des hommes, d'après un roman de Laurent Mouvignier. Ce film est réalisé par Lucas Bellevaux et c'est à propos de la guerre d'Algérie. Ça raconte des jeunes qui sont partis en 61, 62, qui venaient d'une province, des gens simples, des jeunes simples, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais 50 ans après. Et tout à coup, c'est le personnage de Depardieu qui incarne l'idée du traumatisme profond de la guerre. Moi, j'incarne sa petite sœur qui va faire une recherche de lettres, de courriers pour comprendre pourquoi ce grand frère est devenu un quasi-monstre dans la famille. Il est rejeté absolument par tout le monde. Il est en état de destruction et d'autodestruction. Et c'est un personnage vraiment passionnant pour Depardieu. Et Daroussin fait un cousin. Et ce trio qu'on forme, c'est celui de la recherche, de la mémoire, de comprendre. Et voilà, le bouquin a déjà été magnifique. Et là, Lucas Bellevaux, c'est vraiment très intéressant. Et moi, je me retrouve dans le devoir de mémoire. C'est elle qui soutient son frère aîné, alors que tout le monde le rejette.
Tournage terminé, vous avez une idée de quand est-ce que le film pourrait sortir ?
Eh ben, il devait sortir en janvier, donc je pense qu'il va sortir peut-être en septembre prochain.
D'accord.
Ou peut-être avant. On sait pas ce qui va se passer, si vous voulez. On est dans une attente un peu.
À ce moment-là, en tout cas, j'espère que vous reviendrez nous en parler encore plus longuement.
Oui,
avec des extraits.
D'accord.
Et que vous nous mettrez l'eau à la bouche pour aller le voir dès que ça sortira dans les salles.
Oui.
Vous êtes passionnée par. Vous regardez Catherine Froid, tellement attendrie, Plantu.
Amoureux.
C'est très beau à voir. Amoureux, limite amoureux, c'est vrai.
Et puis je suis amoureux des artistes. Mais vraiment. Vous n'imaginez pas, Catherine, comment une mimique, un geste, je veux dire, ah, mais comment elle a fait ça? Et moi, je regarde et je regarde et je regarde encore, comme des chansons qu'on aime. Quand je peux, je passe 3 fois, 4 fois le film. Non, c'est pour ça que j'ai aimé. Et c'est pour ça qu'il y a ce dessin que j'ai mis aussi avec tous ces artistes qui essayent d'imaginer, puisqu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans les théâtres. Je me dis, peut-être dans le métro, peut-être que s'ils font venir les gens dans le métro, comme on a le droit d'aller dans le métro, peut-être qu'ils peuvent faire un peu de jeu, de partager leurs émotions, leurs sentiments. Je veux dire, je pense à tous ces artistes parce que ils vivent un moment difficile et c'est aujourd'hui qu'il faut leur dire à quel point on les aime et pourquoi on aime Catherine Froid.
Et alors, si je peux me permettre d'intervenir, aussi, moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que si vous, ça vous plaît de regarder les sentiments sur le visage d'une actrice ou d'un acteur et de les étudier, eh ben, quand on regarde vos dessins, moi aussi, je suis touchée de l'expressivité incroyable des personnages comme ça en tout petit. Et l'expressivité, vous avez toujours su la rendre forte comme ça et ça joue beaucoup dans vos dessins. Cette histoire d'expressivité des visages.
Dessins, il y a souvent du théâtre d'ailleurs, hein, parce au moment où il était question de faire des orateurs devant les théâtres, j'avais fait ce dessin avec un petit personnage de la pièce de théâtre de Edmond Rostand. Et je reprends. De Corneille, pardon, Orage au désespoir, le Cid. Et donc, orage au désespoir, au rodatage, au vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette pandémie? Et donc, au lieu que ce soit le Cid, c'est le Covid.
À quand le retour dans les théâtres?
Exactement, et c'est pas le Cid, mais c'est le Covid de Corneille. Et Corneille, il est présent aussi dans mes dessins. Et je me souviens que quand j'étais adolescent, j'attendais les comédiens de la Comédie française Place Colette, avec un petit appareil photo, un petit foca, et j'ai vu passer Robert Hirsch, Jean Piat, Jacques Charon, et je les arrêtais, je voudrais vous prendre en photo, et je les prenais en photo, mais je les aimais comme des fous. Catherine Yégel, qui était une petite jeune en mini-jupe, elle est, oh, mais je, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point je suis habité par l'amour de ce que vous nous donnez sur les planches. Et de ce que vous nous donnez aussi au cinéma, bien sûr.
Merci
à tous. On est habité par cet amour qu'on a pour vous.
Vous nous avez donné terriblement envie aujourd'hui, tous les deux. Je ne sais pas si c'est bien de retourner dans les salles.
Et on peut revoir sur Internet, on peut revoir Fleur de Cactus. Michel Faux a fait la mise en scène. Et on peut voir la pièce en entier sur Internet. Et on se fait plaisir et on retrouve.
Mais c'est moins bien qu'en vrai. Hein. Bon, moi, je veux bien. Aujourd'hui, c'est l'avantage d'aller tourner sur Culture Box, ils ont lancé plein de retransmissions de pièces. Hein. C'est une bonne idée. Au moins, mais qu'est-ce que c'est mieux en vrai?
C'est allez,
vrai,
on va continuer à discuter. On va devoir
quand vous décrochez le téléphone,
la main à Jean-Alphonse Richard.
Quand vous êtes à l'accueil de ce dentiste, vous essuyez, vous faites déjà les mesures barrières, et ça a été tourné il y a 5 ans, et vous faites déjà les mesures barrières parce que vous frottez l'appareil, le combiné, oui, avec une petite lingette.
Oui, c'est vrai.
Et nous, pendant la pluie, on va refaire Fleur de Cactus tout de suite. Jean-Alphonse Richard, confidentiel consacré à Larry Flynt. La semaine prochaine, je reçois Patrick Fiori. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Plantu pour ce journal inattendu.
Merci.
Très bon week-end
cadeau
à tous.
Merci
à samedi prochain.
Merci Ophélie.
Le journal inattendu sur RTL. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.